Chapitre 5. 27 avril. Fin d'avril, envolez-vous, les étudiants. Les premiers souffles chauds font éclater les bourgeons. Meudon rit, clame argazouille, dans la vallée de Chevreuse, les champs de violettes en baume. Il pleut des chassons de saule aux deux rives de l'Yvette, et plus loin, là-bas, sous les dômes reverdis de la forêt de Fontainebleau, les chevreuils dressent l'oreille au bruit des premières cavalcades. Envolez-vous! Les sentiers sont fleuris, les landes roses, les sous-bois pleins d'ailes qui fuient. Tout Paris émigre vers la campagne en fête. Les plus pauvres ont un coin préféré, un souvenir de l'an passé qu'on veut retrouver et rajeunir, un abri où l'on a dormi, une allée où l'ombre était douce, une place au bord de l'eau où le poisson mordait. Chacun dit « Vous souvenez-vous ?» Chacun cherche son nid comme l'hirondelle qui revient. Tient-il encore ? Quels dégâts lui ont fait les vents d'hiver et la pluie et la gelée ? Peut-on s'y reposer encore ? J'ai dit aussi à Lampron, te rappelles-tu, car nous avons notre nid et des jours de soleil qui rient dans nos mémoires. Il était en veine de travail, il hésitait. J'ai murmuré, l'étang du Merle, il a souri, et nous voilà partis. D'ordinaire, et cette fois encore, le rendez-vous, c'est Saint-Germain, non pas la ville, ni le château italien, ni les terrasses d'où la vue est si large sur la Seine, la campagne semée de villas et Montmartre bleu dans le lointain, mais la forêt. Elle est à nous plus qu'à bien d'autres, nous connaissons toutes ses tailles, toutes ses futaies, toutes ses traînes où s'enfoncent les braconniers et les amoureux. J'irai, les yeux fermés, vers cet étang du Merle qui nous fut indiqué par un chevreuil. Figurez-vous, à 30 pas d'une allée, non pas un étang, le mot est impropre, ni une mare, une fontaine creusée par la disparition de quelques chênes géants. Depuis la mort de l'arbre roi, les bouleaux, que ses vastes branches avaient tenus écartés, ne se sont pas rapprochés et la fontaine forme le centre d'une petite clairière où la mousse est épaisse en tout temps et constellée en août d'œillets sauvages. L'eau, pour profonde qu'elle soit, n'en est pas moins transparente à ravir. À travers plus de 6 pieds, on distingue au fond les feuilles mortes, les herbes, les brins de bois, quelques pierres aux contours irisés. Tout cela dort, débris des jours passés que d'autres recouvriront. Par moments, des profondeurs de ces halliers aquatiques, une salamandre s'élance. Elle monte en spirale, agitant sa queue rubanée de jaune, prend une gorgée d'air et redescend à pic. Hormis ces incursions, rien ne trouble la fontaine. Elle est protégée du vent par un genévrier que Néglantier a choisi pour tuteur et, chaque année, couvre d'un chapeau de rose. Chaque année aussi, un merle y fait son nid. Nous lui gardons le secret. Il sait que nous n'y toucherons pas. Et quand je retrouve ce petit coin de bois que l'habitude nous a rendu cher, rien qu'à regarder l'eau, j'éprouve une impression fraîche qui me va jusqu'au cœur. « Le bon endroit pour y dormir !» s'écria Lampron. « Fais le quart, Fabien. Moi, je me repose. » Nous avions marché vite. La chaleur était grande. Il ôta sa veste, la roula en oreiller et y posa sa tête en s'étendant sur l'herbe. Moi, je me couchais à plat ventre, en plein tapis de mousse, et je me livrais à une étude approfondie d'un pied carré du sol que j'avais sous les yeux. La multitude des brins d'herbe était prodigieuse. Quelques-uns, déjà épiés, dépassaient le niveau commun et se balançaient comme des palmiers ou que laineuses, fétuques, vulpins, bromes des prés, maigres tiges couronnées d'un bouquet. D'autres pointaient, à demi déroulés seulement, au milieu des masses plus sombres des mousses gonflées d'eau et chargées sans doute de leur donner à boire. Entre les fûts innombrables, ainsi levés vers le ciel, des sentiers se croisaient, pleins d'obstacles, écorces, baies de genévriers, faines de bouleaux, racines enchevêtrées, éminences soulevées par le travail souterrain des insectes, ravins creusés par l'écoulement des pluies. Des fourmis et des scarabées y passaient, affairés, montant et descendant vers un but mystérieux. Au-dessus d'eux, une mignonne araignée rouge reliait une tige de graminée à une feuille d'orchidée, colonnes élues de la toile future, et quand un rayon de soleil, entre les feuilles remuées par le vent, arrivait jusque-là, je voyais la fine trame déjà toute dessinée. J'ignore ce que cette contemplation dura. La forêt était calme, à part un essaim de moucheron qui sonnait sa fanfare à mineur au-dessus de l'emprunt endormi. Rien ne bougeait, rien ne bruissait autour de nous. Tout buvait en silence à la coupe du grand soleil. Très loin et confusément, j'entendis des voix. Je me levai et, à pas de loup, parmi les bouleaux et les noisetiers, j'allai jusqu'au bord de l'avenue. En haut de la pente, sur la marge verte de l'allée qu'ombrageait la futaie, deux promeneurs venaient lentement. À la distance où ils se trouvaient encore, je ne pouvais distinguer qu'une chose. L'homme était en redingote, la femme en robe grise, et jeune, à en juger par le mouvement souple que la marche imprimait à son corps. Et cependant, j'eus tout de suite le sentiment que c'était elle. Je me cachai, ils approchèrent, et je la vis passer, en effet, au bras de son père, causant doucement, heureuse d'être échappée de la rue de l'université. Elle regardait devant elle, les yeux grands ouverts. Lui regardait sa fille, plus occupé d'elle que du printemps en pleine sève. Il inclinait à droite dès que le soleil mordait la ligne d'ombre et demandait de temps en temps « Tu n'es pas lasse ?»« Oh non !»« Quand tu seras fatigué, mon enfant, nous nous assoirons. Je ne vais pas trop vite. » Elle répondait encore non et riait et ils allaient. Bientôt, ils quittèrent l'avenue et s'enfoncèrent dans un sentier. Je les perdis de vue. Alors il y eut en moi comme un crépuscule subit, une tristesse immense me remplit le cœur, je fermai les yeux et, Dieu me pardonne, je pleurai. « Ah ça, quel rôle me fais-tu jouer ?» dit l'emprunt derrière moi. « Quel rôle ?»« Oui, je trouve singulier que tu me convoques à tes rendez-vous. »« Un rendez-vous ? Mais il n'y en a pas ?» « Tu vas me faire entendre, peut-être, que tu es venu ici par hasard ?»« Certainement. Juste à l'heure et au lieu où elle devait passer ?»« En veux-tu la preuve ? Cette jeune fille est Mademoiselle Charnot. »« Eh bien ? Eh bien, mon cher, je ne lui ai jamais reparlé depuis mon unique visite chez son père. Je ne l'ai aperçue qu'une seule fois dans la rue un instant. Tu vois bien qu'il ne peut être question de rendez-vous ici. » J'ai été le premier surpris. C'est le hasard, c'est une providence aimable qui s'est servie de la beauté de la lumière, de cette brise, de toutes les douceurs d'avril pour l'amener, comme nous, dans la forêt. Et cela te fait pleurer ? Non, pas cela. Quoi donc ? Je ne sais pas. Ah, grand enfant que tu es, je vais te le dire, tu l'aimes. En vérité, je crois que tu dis vrai, Sylvestre. Je t'en fais l'aveu tout simplement, comme à mon meilleur ami. Cela date de loin déjà, peut-être du premier jour où je l'ai rencontré. Dans les commencements, son image s'offrait à mon esprit et j'y trouvais plaisir. Bientôt, l'image ne m'a plus suffi. J'ai désiré la revoir elle-même, je l'ai cherchée dans la rue, dans les magasins, au théâtre. Je m'aveuglais encore et je m'imaginais que c'était seulement pour me faire pardonner d'elle, pour ne pas lui laisser, quand je quitterai Paris, la fâcheuse impression de notre première entrevue. Mais à présent, Sylvestre, toutes ces vaines raisons s'évanouissent et la vraie raison m'apparaît, je l'aime. Il n'y a pas de doute, mon ami, j'ai passé par là, il n'y a pas de doute. Il se tut. Ses yeux vagues erraient sur des lointains de bois, peut-être aussi sur des lointains de souvenirs. Une ombre voilait sa mâle figure, mais cela dura peu. Il secoua cette tristesse et ce fut avec son bon sourire d'habitude qu'il me dit « Alors, c'est sérieux ?»« Oui, très sérieux. »« Ma foi, je ne m'en étonne pas. Elle est bien, cette jeune fille. »« N'est-ce pas qu'elle est jolie ?»« Mieux que cela, mon ami, Candide. » « Quel renseignement as-tu sur elle ? » ?»« Qu'elle danse mal. C'est bien quelque chose. Mais c'est tout ce que je sais. Eh bien, renseigne-toi sur le reste, parle-lui, déclare-toi, demande-la et mariez-vous. » »« Oh mon Dieu, Sylvestre, comme tu y vas !»« Mon cher, c'est le meilleur et le plus moral des systèmes. Il faut mener rondement ces vagues idylles, ou pour les rompre sans trop de peine, ou pour les terminer en honnêtes fiançailles. À ta place, dès demain, je commencerai. Pourquoi pas dès aujourd'hui ? Comment cela ? Rattrapons-les pour la revoir au moins. Il se mit à rire. À mon âge, courir après les jeunes filles ? Enfin, j'ai donné le conseil, en avant. Nous traversons l'allée et nous nous lançons à travers la forêt. Lampron s'était fait jadis une réputation d'infatigable agilité parmi les chasseurs de renards de la campagne de Rome. Il la mérite encore. En 20 bonds, il m'eût dépassé. Je l'apercevais, sautant par-dessus les bruyères et pointant de sa canne les jeunes pousses des chênes ou se détournant pour me voir, plus embarrassé que lui, accroché par les ronces et piqué par les ajoncs. Le vol d'un faisan l'arrêta net. L'oiseau, parti sous ses pieds, s'élevait en pleine lumière. « Est-ce beau ? » dit-il. « À ça, attention, soyons plus prudents, puisque nous effarouchons le gibier. À 200 pas, nous devons retrouver le sentier qu'ils ont pris. » En effet, 5 minutes plus tard, dissimulé derrière le tronc d'un gros hêtre, il me télégraphiait. « Les voici !» Jeanne et M. Charnot s'étaient assis sur un arbre abattu le long du sentier qui fuyait, à peine visible sous la futaie. Ils nous tournaient le dos. Le père, courbé, sa canne à pommes d'or piquée en terre, lisait dans un livre que nous ne pouvions voir, et Jeanne, attentive, immobile, à demi tournée vers lui, écoutait. Le profil de son visage se détachait sur une bande claire du ciel. La paix profonde du bois nous enveloppait et la voix du vieux savant arrivait jusqu'à nous. Aussitôt, le divin Ulysse tint à la blanche Nausicaa ce discours plein d'adresse. « Déesse ou mortelle, ô reine, je m'agenouille devant toi. Si tu es l'une des divinités qui habitent le ciel immense, à ta beauté, à ta grâce, à ta noble taille, je reconnais Diane, fille du grand Jupiter. » Si tu es l'une des mortelles qui habitent sur la terre, 3 fois heureux ton père et ton auguste mère, 3 fois heureux tes frères chéris. Sans doute, leur âme est toujours épanouie à cause de toi, quand ils voient une aussi belle vierge entrer dans le cœur des danses. Mais combien plus heureux encore celui qui t'emmènera, chargé de présents, vers sa riche demeure. Je me retournai vers Lampron, arrêté à 10 pas en avant de moi, un peu à droite. Il avait atteint son album et crayonnait à la hâte. Bientôt, il oublia toute prudence et sortit de l'abri du hêtre pour se rapprocher du modèle. J'eus beau multiplier les signes et tenter de lui rappeler que nous n'étions là ni pour peinture ni pour dessin, ce fut peine perdue. L'artiste était déchaîné. Assis à la distance voulue, en place découverte, sur une racine courbée, il travaillait sans autre préoccupation que celle de son art. Il arriva ce qui devait arriver. Impatienté par les difficultés de l'ébauche, Lampron remua les 2 pieds ensemble. Une branchette qui casse, des feuilles qui se froissent, Jeanne tourna la tête et nous aperçut, moi qui la contemplais, lui qui la dessinait. Quelles peuvent être les impressions d'une jeune fille qui découvre ainsi tout à coup, en pleine forêt, 2 paires d'yeux occupés d'elle ? Un peu de frayeur d'abord, puis, quand l'idée du voleur s'est dissipée, qu'un second coup d'œil a permis de reconnaître que l'on veut à sa beauté et non point à ses jours, un mouvement d'amour-propre flatté mêlé de quelques confusions. C'est là précisément ce que nous crûmes remarquer. Au premier moment, elle se rejeta légèrement en arrière, les sourcils foncés, prêts à crier. Puis les sourcils se détendirent et le plaisir d'être admirée, la petite honte d'avoir été surprise, le désir de ne pas être gauche, tout cela parut sur ses joues roses et dans un demi-sourire vague. Je saluai, Sylvestre enleva son béret. Monsieur Charnot ne bougea pas. « Est-ce encore un écureuil ? » dit-il. « Je crois qu'ils sont 2, mon père, » répondit-elle à voix basse. Et il continua sa lecture. « Oh, mon hôte, » répondit la blanche Nausicaa, « je te donne ce nom, car tu ne me parais ni bas ni insensé. Jupiter lui-même distribue le bonheur mortel. » Jeanne n'écoutait plus. Elle songeait. « À quoi ? » ?»« À plusieurs choses peut-être, mais sûrement à battre en retraite. » Je le devinais au mouvement de son ombrelle qui traçait fiévreusement des cercles sur la mousse. Je fis signe à Lampron, nous nous retirâmes à reculons. Mais ce fut inutile, le charme était rompu, la paix était troublée. Elle toussa deux fois d'une petite toux volontaire et harmonieuse. M. Charnot s'interrompit, inquiet. « Tu as froid, Jeanne ?»«
Mais non, père !»«
Mais si, tu as froid. Pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt ?»«
Mon Dieu, les enfants, toujours les mêmes, imprudents !»
Il se leva sans plus tarder, mit son livre dans sa poche, boutonna sa redingote et, appuyé sur sa canne, chercha un instant dans la cime des hêtres. Puis, côte à côte, ils s'éloignèrent par le sentier. Jeanne allait légèrement, toute droite, svelte, entre les jeunes golis couverts de feuilles nouvelles qui la cachèrent bientôt. Cependant, Lampron continuait de fixer ce détour du sentier par où elle avait disparu.
« À quoi penses-tu » lui dis-je.
Il passa sa main sur sa barbe, dont quelques poils cendrés étoilaient le milieu. « Je pense, mon cher, que la jeunesse nous quitte de cette même façon, à l'heure où nous l'aimons le mieux, avec un petit sourire et sans dire où elle va. La mienne m'a joué ce tour-là.
Quelle bonne idée tu as eue de les dessiner tous deux. Montre donc le dessin. »«
Non.
Pourquoi non ?
Ce n'est même pas une ébauche, trois coups de crayon seulement.
Montre quand même. »
Mon petit ami Fabien, tu devrais savoir que, quand je m'entête, c'est que j'ai une idée comme l'âne de Balaam. Tu ne verras mon album ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain.
J'ai répondu bêtement,
« Ça m'est égal, va !»
Au fond, j'étais très contrarié et j'ai quitté un peu froidement Lampron sur le quai de la gare.
Imagine-t-on un pareil caprice, ne pas me montrer un dessin qu'il a fait devant moi? Un dessin qui représente Jeanne.
28 avril, 9h du matin.
Cache tes dessins, mon ami Sylvestre. Enfouis-les dans tes cartons ou dans tes poches, cela m'importe peu. Je l'ai dans le cœur, l'image de Jeanne, et je la revois quand je veux, et je l'aime, je l'aime, je l'aime.
Qu'adviendra-t-il d'elle et de moi, je n'en sais rien. J'espère, sans savoir quoi, ni pourquoi, ni pour quand, et cela seul est doux.
9h du soir. Cet après-midi, à 2h, je rencontre Lampron, boulevard Saint-Michel. Il marchait vite, un carton sous le bras. Je l'aborde. Il a l'air contrarié et reçoit mal l'offre que je lui fais de l'accompagner. Le sang me monte à la tête.
« Eh bien, au revoir, monsieur Lampron, puisqu'il n'est plus permis de vous aborder, au revoir. »
Il réfléchit un instant.
« Bah, suis-moi si tu veux, je vais chez mon encadreur. »«
Un tableau ?»«
À peu près. » »«
Et le voilà, le mystère. Tu me fais des cachotteries, hier pour un dessin, aujourd'hui pour un tableau. Ce n'est pas bien, Sylvestre, non, ce n'est pas bien. »
Il me regarda d'un air d'amitié compatissante.
« Pauvre petit bonhomme, » dit-il.
Puis, reprenant sa voix nette et ferme,
« Je suis très pressé, viens si tu veux. » J'aurais mieux aimé que ce fût dans 4 jours, mais enfin, la joie n'arrive jamais trop tôt.
Lorsque Lampron veut se taire, il est inutile de l'interroger. Je me résignais donc à la méditation de ces mots, la joie n'arrive jamais trop tôt. Nous descendons le boulevard le long des brasseries. Il marche fièrement, mon ami Sylvestre, il ne se confond pas avec la foule qu'il traverse. On devine chez cet homme, grave sans affectation, indifférent au bruit et aux curiosités de la rue, une âme robuste et haute. Parmi les passants, il est quelqu'un. J'entends sortir d'un groupe d'étudiants, assis devant un café, ce dialogue qu'il n'a pas l'air de remarquer.
« Tiens, vois-tu le plus grand, là-bas, c'est Sylvestre Lampron.
Le prix du salon d'il y a 2 ans ?»«
Oui, un monsieur, tu sais.
Il en a bien l'air. »
« À gauche, » dit Lampron.
Nous tournons à gauche et nous arrivons rue Hautefeuille, devant une maison fanée, sous le porche de laquelle pendent des écriteaux de chambres à louer. C'est là que demeure l'encadreur. Le couloir est obscur, les murs sont tailladés par les heures de tant d'emménagements et de déménagements qu'ils ont vus. Nous montons. Au 4e, une odeur de colle et de moisie répandue sur le palier suffirait à indiquer la profession du locataire. Pour plus de précision, il y a une pancarte clouée sur la porte. Plumet, encadreur.
Plumet,
Un jeune ménage ?
Mais déjà Madame Plumet a ouvert. C'est bien elle, la petite dame Plumet de l'étude boule. Elle me reconnaît dans le demi-jour de l'escalier.
Comment, Monsieur Lampron, vous connaissez Monsieur Mouillard ?
Et vous aussi, Madame Plumet, à ce qu'il paraît ?
Oh, très bien ! C'est lui qui a gagné le procès, vous savez ?
Contre les bénisses ?
Parfaitement. Votre mari est là ?
Oui, monsieur, dans l'atelier.
Plumet !
Par la porte entr'ouverte donnant sur une seconde pièce, nous apercevons, au milieu de ces ouvriers mouleurs, doreurs, brunisseurs, encadreurs, un petit homme brun, à barbiche, qui lève la tête et dénoue prestement les cordons de son tablier de travail.
« J'y vais, Marie, j'y vais !»
Elle était bien un peu confuse, la petite dame Plumet, de nous recevoir en négligé sans avoir fini son ménage. Je le vis à sa rougeur, au mouvement instinctif qui fit courir ses doigts sur les frisons en désordre de ses cheveux. À peine son mari eut-il répondu qu'elle nous laissa et s'en alla au fond de la chambre, dans la demi-ombre d'une alcôve encombrée de meubles. Là, elle se pencha au-dessus d'une chose carrée que je distinguai assez mal d'abord et qui s'agita sous sa main.
« Monsieur Mouillard ! » dit-elle en levant les yeux vers moi.
Je m'aperçus alors que je l'avais suivi.
« Monsieur Mouillard, c'est mon fils Pierre !»
Oh, le doux orgueil de ces mots et du sourire qui les accompagna. Du doigt, elle écarta un des rideaux. Sous l'étoffe de percale bleue, je découvris alors, entre oreiller et drap blanc, deux petits yeux noirs et une mèche blonde.
« Voyez comme il est méchant !» reprit-elle.
Et elle se mit à caresser l'enfant qui s'éveillait. Pendant ce temps, à l'autre bout de la salle, Sylvestre causait avec M. Plumet.
« Impossible !» disait l'encadreur. « Nous sommes dépassés par la besogne. J'ai 20 commandes qui attendent. »
« C'est un service d'amis que je vous demande. »«
Je voudrais pouvoir vous obliger, monsieur Lampron, mais je vous promettrai que je ne tiendrai pas ma promesse. »
C'est dommage, tout était arrangé. Le dessin devait être exposé avec mes deux gravures. « Mon pauvre Fabien, je te ménageais une surprise. Tiens, viens voir. »
J'accourus. Sylvestre ouvrit le carton.
« Reconnais-tu ? »
« Ciel, si j'ai reconnu !» Monsieur Charnot de dos, Jeanne de profil, très ressemblante, un coin de forêt, l'ombre et la terre, la canne piquée dans l'herbe, un tableau de genre, d'une finesse et d'une vérité parfaite.
Quand as-tu fait cela ?
Cette nuit.
Et tu veux l'exposer ?
Au salon.
Mais le salon, Sylvestre, on ne reçoit plus rien. Il y a longtemps que le 16 mars est passé.
« Précisément, j'ai eu un mal fou, j'ai intrigué toute la matinée. Pour un tableau, je n'aurais jamais réussi, mais un dessin, 20 cm sur 30, c'est si petit. »«
Corruption de fonctionnaire, alors ?»«
Avec substitution prohibée, j'avais justement pendu là-bas, entre deux gravures, un sous-bois au crayon assez semblable à celui-ci. On décroche l'un, on accroche l'autre. » Enfin, tout un petit mystère d'iniquité dont je suis honteux encore.
Je risquais cela pour toi, j'espérais qu'elle viendrait, qu'elle se reconnaîtrait.
Mais certainement, elle se reconnaîtra, elle comprendra. Comment veux-tu qu'elle ne devine pas ?
Sylvestre, que je te remercie.
Je sautai au cou de mon ami Sylvestre, lui demandant pardon de mes sottes récriminations. Il était un peu attendri, lui aussi, un peu troublé du plaisir que sa surprise me causait.
« Voyez, Plumet, » dit-il à l'encadreur, qui avait approché le dessin de la fenêtre et le considérait en homme du métier, « voilà un jeune homme, encore plus intéressé que moi dans l'affaire, un aspirant au mariage auquel vous pouviez être très utile. Si vous n'encadrez pas le dessin, toute sa joie va disparaître. »
Le maître encadreur secoua la tête.
« Voyons, Antoine !» dit une petite voix câline. Et Madame Plumet quitta le berceau pour se porter à notre secours. Je jugeai tout de suite la partie gagnée. Monsieur Plumet répéta bien, en torturant sa barbiche, que c'était impossible. Elle affirma le contraire. Il fit mine de rentrer à l'atelier, elle le retint par la manche et le fit rire et consentir en s'écriant
« Antoine, Monsieur Mouillard nous a mariés. Tu peux bien lui rendre l'appareil !»
J'étais ravi.
Pourtant, un doute me prit. « Sylvestre, » dis-je à Lampron, qui déjà tournait le bouton de la porte, « crois-tu qu'elle viendra ?»«
Dame, je l'espère, mais je n'en réponds pas. Pour être sûr, il faudrait lui faire dire « Mademoiselle Jeanne, votre portrait est au salon. Si tu connais quelqu'un qui se charge de porter ce message rue de l'université ?»«
Non, hélas !»«
Alors viens-t'en et fie-toi ta bonne étoile. »
« Rue de l'université, vous dites ?» interrompit la petite dame plumée qui prenait décidément le plus vif intérêt à ma cause.
« Oui, pourquoi ?»«
C'est que j'ai une amie dans le quartier et peut-être... »
Je me risquai à lui donner, sous le sceau du secret, le numéro et le nom. Et bien m'en prit. En 3 minutes, elle eut combiné un plan. Justement, l'amie habitait dans le voisinage de l'hôtel de la rue de l'université, une concierge, une personne d'âge est très sûre. Par elle, on pourrait peut-être avertir Mademoiselle Jeanne que son portrait, ou quelque chose d'approchant, figurerait au salon. Discrètement, cela va sans dire, et sans avoir l'air de rien. La brave et intelligente petite femme, ai-je eu de l'esprit de lui rendre service? Je ne supposais pas qu'elle dût m'en récompenser un jour. Et me voilà payée, capital et intérêt. Cependant, j'hésitais encore. Elle emporta mon consentement.
« Non, non, dit-elle, laissez-moi faire. Je vous promets qu'elle sera prévenue, monsieur Mouillard, et que le dessin sera encadré, monsieur Lampron. »
Elle nous reconduisit jusqu'à la première marche de l'escalier, la petite dame Plumet, contente d'avoir gagné une aussi belle partie sur monsieur Plumet et d'avoir été trouvée si fine et d'être employée dans un complot où il y a de l'amour. Dans la rue, Lampron me serra la main. «
Va, va, mon ami, les gens heureux vont seuls, c'est un besoin du cœur. Dans 4 jours, à midi, j'irai te prendre et nous ferons ensemble notre première visite au salon. » Oui, j'étais heureux. Je marchais vite, ne regardant rien, les yeux perdus dans ma pensée, écoutant dans mon cœur une musique divine. Il me semblait que je portais une auréole. J'en étais gêné, car il y a de l'insolence à crier sur les toits. « Regardez bien, c'est moi, j'ai l'âme en fête, Jeanne va m'aimer. » En vérité, j'étais à moitié fou. Auprès du bassin du Luxembourg, devant le vieux palais où s'assemble le Sénat, voici 2 petites filles qui jouent. L'une pousse, l'autre tombe.
« Vilaine, Jeanne, est-elle vilaine ?»
Je cours, je relève la petite, et sous les yeux de la bonne stupéfaite, je l'embrasse en disant
« Non, mademoiselle, c'est la plus charmante fille du monde. »
Et monsieur Legrand, quand je songe à ma conversation avec monsieur Legrand, je rougis encore. Il se tenait dignement sur le seuil de sa boutique, épicerie fine, comestible, spécialité de denrées coloniales. Nous sommes en bons termes, monsieur Legrand et moi. Je lui achète des oranges, de la réglisse et du rhum pour le punch. Mais j'observe les distances. « Eh bien, je l'ai appelé mon bon monsieur Legrand. Je l'ai abordé et je n'avais rien à lui acheter. Je lui ai demandé des nouvelles de ses affaires. Je lui ai dit « Quel temps délicieux, monsieur Legrand. Nous voilà tout à fait revenus au beau jour. » Il a levé les yeux vers l'ouverture de la rue, les a rabaissés vers moi et s'est abstenu de répondre par déférence. Et, en effet, j'ai bien vu après qu'il bruinait d'une façon très désagréable. Enfin, tout à l'heure, en revenant de dîner, j'ai croisé rue Bonaparte, un ménage d'ouvriers, et l'homme a dit en me désignant « Tiens, un poète !» Il a vu juste. Chez moi, le clerc d'avoué s'est effacé, le docteur de demain a disparu, il ne reste que le poète, c'est-à-dire le fond de toute jeunesse, dégagé des plantations parasites de la vie. Je le sens qui s'éveille et s'émeut. Que c'est doux, la vie, et quel merveilleux instrument nous sommes pour que, du bout de son petit doigt, l'espérance en nous touchant nous fasse ainsi vibrer.